France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, opération Place Nette à Marseille.
Contre le trafic de drogue, Emmanuel Macron est venu lui-même annoncer la méthode, disant vouloir rendre la vie impossible aux dealers. Les habitants des quartiers nord sont sceptiques, les syndicats de police mitigés, vous l'entendrez.
Et les autres titres, Kevin.
2024 sera probablement l'année la plus chaude jamais enregistrée. Nouveau rapport alarmant de l'ONU sur le climat. Nouvelle discussion entre les représentants des agriculteurs et le Premier ministre ce matin.
Et on en parle avec Rémi Dumas, il est vice-président des jeunes agriculteurs, c'est l'invité de ce journal.
Deux morts par jour dans la rue en 2023, un hommage leur a été rendu aujourd'hui. Nous serons aussi dans la manifestation des fonctionnaires à Paris, peu suivi. Et puis tout comme le printemps, le Banksy nouveau est arrivé sur un mur londonien.
Au sommaire du 18-20 ce soir, on parle concentration des médias, on en parle beaucoup chez nous mais ailleurs aussi, en Angleterre, en Italie, où nous irons, y a-t-il un risque pour la pluralité et la liberté des médias en Europe? C'est avec le PDG du groupe Le Parisien Les Échos qu'on en parle. Nous sommes en Turquie ce soir, où la société civile n'en peut plus des centaines de féminicides totalement négligés par la police. Vous verrez qu'en Croatie, le président veut devenir Premier ministre, que les marchés financiers européens ne sont pas si obscurs qu'ils en ont l'air, grâce à Caroline Gillet. Et Franck Madvon vous dira que l'Europe est plus prompte à aider l'Ukraine militairement qu'à accélérer son entrée dans l'Union. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne, opération Place Nette, vous en parlez aussi, anti-drogue, coup de com' ou coup de poing, peut-on éradiquer les trafics de drogue? Le combat est-il gagnable? À vos questions.
France Inter.
Marseille attendait donc le ministre de l'Intérieur. Elle a eu droit au président de la République.
Emmanuel Macron en bas des tours de la cité de la Castellane aujourd'hui pour lancer en personne ce qu'il qualifie d'opération sans précédent contre les trafics de drogue. Alors que des règlements de compte ont fait des victimes ces derniers jours, notamment à Dijon, et que l'homme soupçonné d'être à la tête d'un des plus gros réseaux marseillais vient d'être arrêté. À Marseille pour France Inter, Adrien Beck.
Galerie Bernex, 10h, 3h, voilà ce que l'on peut lire sur le mur d'une de ces tours couleur gris ocre, horaire d'ouverture de ce point de deal aux aires de supermarché. Désormais encadré par les policiers, Emmanuel Macron à quelques mètres, la commissaire en charge de l'opération explique.
Donc on a occupé le terrain de manière renforcée de 10h à 1h du matin.
Et vous avez combien de cibles sur la Castellane?
J'ai les 3 points de vue.
Une visite pour l'image, une visite aussi pour répondre à ce observateur, élu et même magistrat, qui ces dernières semaines s'inquiète d'une guerre en passe d'être perdue à Marseille.
Nous sommes à la bataille. Je ne saurais, pour ma part, céder à aucun discours de défaite.
Ici, 5 quartiers concernés. Le chef de l'État tente de convaincre des habitants parfois incrédules.
On va rendre la vie des dealers impossible.
Mais pas la nôtre.
Absolument. Non, mais c'est pas la... pour que la vôtre, elle puisse... Parce que sinon, on leur laisse le territoire.
Quand d'autres lui parlent, rapport police-population...
Calmez aussi vos petits civils, vos petits CRS là, qui envoient des grenades tous les jours.
Non, rien. Ils ne parlaient pas tout ça. Ils sont là pour quoi? Pour vous protéger?
C'est pas de la protection, ça, monsieur le président. L'envoyer des bombes à l'école jeune à 4h30 quand les enfants sortent de l'école primaire.
Un lien avec les forces de l'ordre souvent entamé, d'autant plus que beaucoup craignent qu'une fois l'opération terminée, tout redevienne comme d'habitude.
Le reportage d'Adrien Beck, ses renforts à Marseille devraient rester au moins 3 semaines et au-delà de la deuxième ville de France. Emmanuel Macron promet, je cite, des opérations Place Nette XXL dans une dizaine de villes à travers tout le pays. C'est bien sur le principe, mais selon Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP-FO, il faut penser une stratégie à plus long terme.
On est plutôt favorable à ce genre d'opération, mais on est aussi frustré parce qu'on sait que ce n'est pas ainsi qu'on va régler le problème des trafics de stupes. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut mener des opérations, il faut pilonner, comme on le dit, pour avoir des résultats à l'instant T. Maintenant, on sait qu'en matière de trafic de stupéfiants, il faut donner d'autres moyens aux enquêteurs à aller sur le travail du blanchiment d'argent. C'est en tapant dans le portefeuille qu'on peut faire mal aux narcotrafiquants. Donner beaucoup plus à la justice de moyens avec des magistrats spécialisés, il en manque énormément. Quand on s'en donne les moyens, on arrive à des résultats à l'international en interpellant Félix Bengui, par exemple, chef du réseau Yoda. Bien, si on veut encore faire mal en touchant ses parrains, il va falloir vraiment donner des moyens supplémentaires aux enquêteurs pour travailler.
Bruno Bartosetti, délégué syndical Unité SGP-FO avec Ariane Grissel. Viendra-t-on à bout des trafics de drogue? C'est aussi la question au téléphone sonne à 19h20.
La planète est au bord du gouffre.
Une phrase choc de plus, une alerte de plus, signé Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui s'exprimait en marge de la présentation aujourd'hui du rapport annuel de l'Organisation Météorologique Mondiale. Niveau de la mer, taille de la banquise, niveau de gaz à effet de serre, tous les indicateurs du réchauffement climatique Antarctique clignote rouge vif en 2023. La température moyenne à la surface du globe l'an dernier a été de 1,45 degrés supérieure au niveau de référence pré-industriel. Rappelons que l'accord de Paris prévoit de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés. Nous y sommes donc presque déjà. On y revient dans le journal de 19h. L'actualité à l'étranger ce soir, c'est la main de la Chine qui écrase encore un peu plus les libertés publiques à Hong Kong. Nouvelle loi sécurité votée à l'unanimité ce soir par le Parlement local de l'ancienne colonie britannique, muselée par Pékin depuis les manifestations pro-démocratie de 2020. Ce texte durcit les peines de prison et établit de nouvelles infractions pour tenter d'éteindre toute opposition. France Inter à Pékin, Sébastien Berriot.
À l'issue de ce vote sans surprise, le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, n'a pas tenté de dissimuler l'objectif de la nouvelle loi, disposer d'un arsenal pour prévenir, a-t-il expliqué, les révolutions de couleur, allusion aux manifestations pro-démocratie de 2019. Il y avait, selon John Lee, urgence à voter cet article 23, et effectivement, le texte a été adopté avec une rapidité inédite, 30 jours seulement de consultation et 12 jours d'examen au Parlement local. Le texte vient compléter l'arsenal répressif déjà contenu dans la première loi de 2020 imposée par Pékin. Les crimes politiques sont définis avec davantage de précision, de la trahison à l'insurrection, en passant par la sédition. Et pour certaines infractions, les peines sont allongées et peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Avec cet article 23, Hong Kong perd un peu plus de sa spécificité et renforce son alignement sur le système juridique de la Chine continentale. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Et des réactions ce soir, Washington se dit, je cite, alarmé par cette nouvelle loi quand Londres dénonce une atteinte au respect de l'état de droit.
Des cortèges clairsemés dans les manifestations de fonctionnaires.
Oui, appel à la grève de plusieurs syndicats relativement peu suivis. Aujourd'hui, 6,5% des fonctionnaires étaient en grève à la mi-journée d'après le ministère. Mobilisation faible peut-être parce que c'est difficile de se passer d'une journée de salaire. Réclamer des augmentations, c'était d'ailleurs le mot d'ordre de cette journée. Pour certains, il s'agissait aussi de mettre la pression à 4 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mathilde Ansker a suivi la manifestation parisienne devant le Jardin du Luxembourg cet après-midi.
André est agent administratif pour les hôpitaux de Paris et s'il est dans la rue, c'est d'abord pour demander de meilleurs salaires.
Aujourd'hui, avec 40 ans de service, je suis à peine à 2000 euros net par mois.
Alors pour lui, il faut se servir des Jeux Olympiques pour faire pression sur le gouvernement. C'est aussi ce que pense Manuela Donna. Elle est secrétaire générale de la CGT des douaniers.
Nous, on veut bien participer aux JO, mais il y a un moment, il faut aussi entendre que ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de revalorisation salariale. Et qu'il y a un moment, la machine, elle casse en fait, le fil, il casse.
Comme elle, Michael sera sur le pont cet été. Il dirige un centre de loisirs et ce qui se profile pour le mois de juillet lui rappelle les années Covid.
On impose de faire des efforts lors d'une crise sanitaire, on nous impose de faire des efforts sur un événement sportif. On nous demande tout le temps des efforts, on se demande où est la contrepartie. Alors c'est gentil de nous dire merci, merci, mais à un moment il faut le montrer concrètement.
Du côté de l'organisation des Jeux, Tony Estanguet appelle lui à la trêve sociale pendant les JO, mais il n'en est pas question pour Marie-Laure. Elle est infirmière dans l'Essonne.
Je les invite à venir travailler H24 à l'hôpital. Et donc voilà, je n'ai pas envie de faire une trêve pendant les JO pour montrer que Paris est beau, tout se passe bien, qu'il n'y a pas de crise sociale en France. Non, non, c'est tout l'inverse qui se passe, quoi.
D'ailleurs, si rien ne bouge, elle n'exclut pas de faire grève pendant les Jeux Olympiques.
Reportage à Paris de Mathilde Ansker. Des manifestations, il y en avait dans toute la France. À Rennes, ils étaient entre 2 et 3 600 manifestants à Pau, 750 dans le centre-ville de Strasbourg.
De leur côté, plus de manifestations, mais toujours des négociations.
Oui, les deux principaux syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, étaient reçus ce matin par Gabriel Attal à Matignon. L'occasion pour les deux organisations d'exposer au Premier ministre leurs 5 blocs de priorité, comme elles disent, sur lesquels, selon elles, ça ne va pas assez vite, malgré les nombreuses concessions faites par le gouvernement, l'élevage, l'eau et les pesticides, la compétitivité, la trésorerie et les retraites. Voilà ces 5 axes.
Bonsoir Rémi Dumas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président des jeunes agriculteurs. Qu'est-ce qu'on dit, monsieur Dumas ? Nouveau coup de chaud chez les agriculteurs ? Le compte n'y est pas ? En tout cas, pas de sortie de crise ? Comment vous l'analysez, vous ?
De toute façon, le compte n'y est toujours pas depuis quelques jours, quelques semaines. Donc, effectivement, cette réunion était aussi importante pour faire le point avec le Premier ministre et surtout le point sur les avancées de leur côté, parce qu'aujourd'hui, nos syndicats GAFNSEA ont mis des propositions sur la table on fait des revendications et puis constructives surtout pour l'avenir de l'agriculture française. Mais de leur côté, les administrations et les ministères peinent un peu à accélérer le bas.
Alors, Rémi Dumas, on ne va pas détailler les 5 points pour ne pas être trop technique, mais il y a quand même des choses, des points de crispation qui sont très spécifiques et qui parlent vraiment aux gens qui nous écoutent. L'eau, par exemple, ce que vous attendez concrètement du gouvernement, c'est quoi? Est-ce que c'est cette phrase qui dirait « oui, on continue les retenues d'eau, poursuivez les travaux » Tant que vous n'entendez pas ça, vous n'êtes pas satisfait?
Mais c'est surtout commencer les travaux dans beaucoup d'endroits, parce qu'il y a même des départements comme le mien, l'Hérault, qui a des projets déjà aboutis, financés, etc. Sauf qu'on se demande encore quel verrou il faut faire sauter pour que ces projets voient le jour, sachant que sur l'eau, il est important quand même pour l'ensemble de la population. Demain, comment l'eau va couler au robinet? Il y a déjà des villages qui sont privés d'eau l'été. Comment on va arroser nos cultures effectivement pour produire de l'alimentation? Comment on va relarguer aussi de l'eau dans les milieux naturels? Comment on va avoir de l'eau pour subvenir aux incendies? Donc c'est un enjeu majeur pour la France entière et pas seulement pour l'agriculture. C'est bien pour ça qu'on se bat, pour les retenues d'eau.
Donc laissez-nous rouvrir les bassines en quelque sorte, et même ouvrir les bassines.
C'est pas des bassines, on va pas employer des grands mots, c'est des retenues hivernales concertées sur le territoire, qui soient à taille pour le territoire concerné. Voilà, c'est ce bon sens-là. Et on a pris un exemple d'un grand ouvrage pour faire sauter tous les autres, alors que pas du tout. Oui, il y a des grands ouvrages, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont plus petits à taille humaine. Et les ancêtres les ont fait à l'époque, notamment dans les Alpes, et c'est pas pour rien. Ils servent bien en cas de forte pluie.
Rémi Dumas, sur les pesticides, qu'est-ce qui vous reste à obtenir dès lors que le plan phyto a été abandonné, dès lors qu'il y aura même une proposition de loi sur les produits phytosanitaires? Là aussi, qu'est-ce qui manque à l'appel?
Qu'est-ce qui manque à l'appel? C'est effectivement cette vision aussi de l'agriculture en général et donc sur les intrants phytosanitaires. C'est qu'aujourd'hui, on surtranspose les normes européennes, donc qu'on soit sûr que ça n'arrive plus, et puis qu'on ait des bons indicateurs pour déjà montrer la réalité du terrain, c'est-à-dire que ça fait des années et des années qu'on réduit nos produits phytosanitaires et à ce jour, c'est pas pris en compte, alors qu'on nous en demande beaucoup plus et on prend pas en compte l'ensemble des efforts qui sont faits depuis 10 ou 15 ans.
Hier, il y a eu une manifestation à Toulouse. Aujourd'hui, la FNSEA du Nord a déversé de la paille à Gravelines devant la direction régionale de l'environnement. Est-ce que le risque, Rémi Dumas, c'est que les troupes s'impatientent et repartent en manifestation? Il ne m'a pas échappé que vous étiez les jeunes agriculteurs. Mais le congrès annuel de la FNSEA, c'est à la fin de la semaine prochaine. Ça commence le 26. Est-ce que c'est la date butoir? Il faut des réponses d'ici le 26.
Mais il faut surtout que d'ici lundi, les équipes se mettent au travail de leur côté. Lundi, le Premier ministre a reconvoqué les présidents de la FNSEA pour refaire un point. Donc j'imagine qu'il va faire accélérer les choses. Aujourd'hui, on est, oui, impatient parce que ça fait longtemps qu'on est au travail, encore une fois, avec des propositions et qu'au final, on ne voit rien arriver. Et surtout, on ne voit rien arriver sur les exploitations. Et c'est ça que les agriculteurs demandent, c'est que ça se voit réellement.
Après, rapidement, et rien arrivé, Rémi Dumas, c'est vrai qu'il y a quand même eu un certain nombre d'avancées. Il y a même Bruxelles qui a promis de détricoter la nouvelle PAC, donc il y a des critères qui ont été assouplis, les 4% de jachères, etc. Donc il ne s'est rien passé, c'est pas vrai, il s'est passé plein de choses en fait.
Mais on n'a jamais dit qu'il ne s'était rien passé. Il y a des avancées, les discours sont plutôt dans le bon sens, mais encore une fois, des discours, il y en a assez. Ça fait trop longtemps qu'on a fait au monde agricole, et quand vous revenez depuis des années, on nous promet beaucoup de choses, mais on nous rajoute des complications plutôt que de la simplification. Donc aujourd'hui, laissons-nous travailler. On a une agriculture de qualité en France et si on le fait aussi, c'est pour que les Français mangent toujours français demain et de qualité.
Rémi Dumas, vice-président des jeunes agriculteurs avec nous dans le journal. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi ce chiffre 656 où le nombre de personnes mortes dans la rue en France l'an dernier, chiffre glaçant qui ne fait qu'augmenter. Ils étaient 611 en 2022. Alors tous les ans, un hommage leur est rendu. C'était ce matin, les noms de ces victimes de la pauvreté égrenées pour ne pas les oublier. Reportage aux arènes de Lutèce à Paris, signé Faustine Calmel.
Sur le sable clair des arènes, le collectif Les Morts de la Rue a donné forme à un cimetière éphémère, un hôtel fleuri, quelques bougies et 656 plaques de bois disposées en étoiles, une pour chaque disparu. Le plus jeune avait 2 mois, le plus âgé 90 ans.
Jonathan, 33 ans, le 4 mai à Laval. Johanna, 47 ans, le 5 mai à Paris 18e.
Guillaume, qui raconte un vécu de rue, travaille aujourd'hui pour l'association Les Enfants du Canal.
Moi, j'ai choisi de lire les noms du mois de mai parce que dedans, il y avait Johanna. C'était une dame d'origine roumaine qui avait une tumeur à un sein qui avait éclaté et qui était en train de se laisser mourir sur un banc.
Robert sent chez lui, comme il dit, entonne un air de trompette.
Il y a des amis qui sont partis aussi, hein. On ne les oublie pas.
Mais au-delà de la mémoire, la cérémonie vise aussi à mobiliser les pouvoirs publics.
Depuis 20 ans, nous sommes des lanceurs d'alerte.
Bérangère Grisoni, présidente du collectif Les Morts de la Rue.
Les mesures, les gestions au thermomètre, c'est un premier pas, mais il faut vraiment agir en amont. C'est une décision politique qui n'est pas prise.
En cette année de Jeux Olympiques, les associations craignent que les sans-abri soient encore plus obligés de se cacher au risque de mourir dans cette terrible indifférence.
Un reportage de Faustine Calmel.
Des peines très lourdes pour des faits très graves.
Contre les 28 personnes reconnues coupables de cyberharcèlement à l'encontre de Magali Berda, l'agente d'influenceur victime d'un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux après avoir été visé par le rappeur Booba, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé aujourd'hui des peines allant de 4 à 18 mois de prison avec dans la moitié des cas de la prison ferme. Morgane Clarefet.
Jusqu'à un an et demi de prison, dont 12 mois ferme sous bracelet pour deux hommes qui ont envoyé des menaces de mort et des propos antisémites à Magali Berda. Pour celle-ci,
c'est un jugement historique. 28 prévenus, 28 peines de prison. Ça passe un message très fort. Ça montre que personne ne passe sous les radars justement, que d'un simple message on peut être condamné. C'est une meute. Donc même si on fait un message, on participe à la meute en toute connaissance de cause.
Aux yeux du tribunal, les prévenus étaient au courant du contexte de cyberharcèlement et ont fait le choix de s'inscrire dedans. Et ce n'est pas le seul facteur qui a joué, estime Antonin Gravelin-Rodriguez, un des avocats de Magali Berda.
14 peines fermes, ça sanctionne à la fois la violence de certains propos, et notamment le caractère antisémite, et à la fois l'absence à l'audience, parce qu'il y a énormément de prévenus qui n'ont pas pris la peine de se déplacer et qui n'avaient pas d'excuses valables. Ça démontre la lâcheté dont certains ont fait preuve dans ce dossier, et le tribunal en a tenu compte pour aggraver les peines.
Seul présent au jugement, un homme de 28 ans condamné à 8 mois avec sursis souffle. « Je regrette, mais je voulais dénoncer les pratiques de Magali Berda. » Il devra, avec les autres, suivre un stage de citoyenneté et verser collectivement 54 000 euros à leurs victimes.
Morgane Clin-Refait, service police-justice de France Inter. Trois personnes ont été interpellées dimanche, on l'apprend ce soir, dans l'enquête sur la cyberattaque contre France Travail. Il y a 10 jours, l'ex-Pôle emploi avait alerté sur une fuite massive de données personnelles touchant potentiellement 43 millions de personnes. Et Banksy a encore frappé dans les rues de Londres. L'artiste anonyme le plus célèbre du monde a publié hier une photo de sa nouvelle œuvre peinte sur un mur de Finsbury Park dans le nord de la capitale britannique. Alors depuis 24 heures, évidemment, Richard Place, ça attire les curieux.
Le long d'une avenue, un arbre aux branches coupées et nues derrière un muret. Désormais, sur le mur, en arrière-plan, une peinture verte dégoulinante représente le feuillage manquant. Au pied, une femme dessinée grandeur nature avec une bonbonne à la main. Sophie essaie de prendre tout ça en photo avec son chien au premier plan.
En fait, je trouve pas ça génial. Si c'était pas un Banksy, personne ne le regarderait attentivement. Mais bon, c'est cool que ce soit dans le coin, j'habite à côté, alors je me suis dit que je pouvais jeter un œil.
Elle espérait faire de son teckel une star des réseaux sociaux, mais la photo ne donne rien, elle repart déçue. Christian, lui, doit aller au London Bridge pour un rendez-vous professionnel. Absolument pas dans le même secteur, mais dès qu'il a appris la nouvelle, il a tenu à venir.
J'ai fait un détour juste pour le voir. Je suis content que tout le monde soit si respectueux. Ça m'impressionne beaucoup d'en avoir un si près de chez moi. Je ne sais pas encore trop ce que ça veut dire. Il faut le regarder en fusionnant la peinture avec l'arbre.
Christian s'en va, ravi, laissant derrière lui une dizaine de curieux. Tout le monde prend des photos, des selfies. Les fans se réjouissent que cette œuvre soit impossible à voler, ce qui s'est déjà produit avec des Banksy. Cette fois, sans l'arbre au premier plan, le graffiti n'a aucun sens. Londres, Richard Place, France Inter.
Et puis cette toute dernière minute, on vient de l'apprendre, les athlètes russes et biélorusses ne seront pas autorisés à participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en juillet, en septembre prochain.
Merci beaucoup Kevin Dufresne.